On vient juste de terminer d'écouter donc votre nouvelle saga et on est vraiment sous le choc, c'est bizarre. Venant de vous, c'est étonnant parce que d'habitude on entend...
C'est normal en fait, vous avez encore en tête mes brawls, je pense, et mes bandes annonces de Johnny Babrioli. Enfin, c'est toujours dans la parodie et l'humour quoi. Enfin, voilà, quant à Mimi Rudo, ben, je pense qu'il vous a habitué pas mal à 12 jeux de mots par minute dans ce texte.
Ouais, enfin des fois un peu moins hein, quand même. Le virage vers le sérieux a déjà été un peu engagé pour toi, Kradukman, avec le scénariste écrit par Eric. Et pour ma part, c'était un peu avec les échappées de Versuel qui ont une ambiance un petit peu plus sombre.
Ouais, mais là, vraiment, pour la première fois, vous faites tous les deux une saga où il n'y a pas vraiment d'humour, quoi. C'est beaucoup plus tourné vers du sérieux.
Bon, quand même un peu. Enfin, c'est vrai que c'est différent. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de comique de situation, comme d'habitude. Pour une fois, c'est plus certains personnages qui vont apporter quelque chose. Je pense, par exemple, au chef de police. Certaines répliques, un monologue, par exemple, qui offre quelques sourires bienvenus au cœur de 40 minutes quasiment de destruction ou de néant, un peu de...
C'était important d'avoir... quand même quelques dialogues de second degré, parce que c'est un peu comme dans les films catastrophes ou les films d'action d'ailleurs. C'est un peu vers ça qu'on a voulu aller, c'est-à-dire on avait un gros pitch et on avait besoin quand même que ce soit pas du rentre-dedans tout le temps, quoi. On avait besoin d'un peu plus de légèreté.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à entendre parler d'environnement, d'immigration dans cette saga, quoi. Il y avait une volonté de faire passer un message, je sais pas, peut-être des élections présidentielles.
Ah oui, mais non, pas du tout en fait. Quand j'écris une saga humoristique, mon but c'est de faire sourire ou rire. Là, si le but c'est pas. C'est pas de faire sourire et que c'est juste d'entendre des bruitages de buildings qui s'affalent, des motos qui vrombissent, des coups de feu, tout ça. Enfin, c'est un peu comme si j'avais l'impression de ne pas avoir de but. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'ajouter un message, une morale, un peu écologique, tout ça. Enfin.
Bah en fait, on s'est un petit peu concerté avant d'écrire et pour savoir un peu de ce qu'on avait envie de parler, quoi. Oui, bien sûr, ce sont des personnages assez communs, quoi, des trucs qu'on trouve un peu partout, mais pas en saga MP3 parce qu'on parle pas vraiment de ces choses. Il n'y a pas cet effet de lassitude qu'on pourrait trouver au cinéma parce qu'il y a toujours des messages qui passent et tout. Et en saga MP3, on est quand même plus beaucoup plus dans l'humour, quoi. Et on s'amuse pas toujours à mettre un fond important, quoi.
Ouais, non, mais c'est bon, ça passe vraiment très bien, ça reste discret. Bon, il y a l'essentiel du mono qui est concentré quand même sur la destruction de la ville, donc... D'ailleurs, avant qu'on continue, vous pourriez nous donner quand même un petit pitch sur ce film ?
Bien sûr. Alors là, je vais lire, hein, parce que... Bon. Des buildings se renversent en plein cœur de New York, enfouissant des milliers de véhicules sous leurs décombres, tandis que le fleuve Hudson et l'océan Atlantique se soulèvent, menaçants. Des traces gigantesques creusent d'inquiétantes tranchées à travers la ville. Un ex-policier est arraché à sa retraite afin d'aider les États-Unis à traquer le monstre à l'origine de ces mystérieuses catastrophes.
J'aurais pas dit mieux, quoi. Non, j'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça.
Ouais, en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que vous est venue l'idée, en fait ?
Ah non, mais c'est pas une idée, en fait. Hein. C'est un documentaire. On s'est levé un jour et... d'enregistrer ce qui se passait autour de nous.
Ouais, non.
Oui, et le plus dur, ça a été d'enregistrer la présentatrice télé.
Ouais, en fait, c'est ça. Vu qu'elle avait un micro, en fait, on crée un Larsen à chaque fois qu'on faisait une prise de son. À chaque fois qu'on approchait un peu trop, on avait un vieux Larsen de merde et c'était vraiment désagréable, quoi. Donc c'était un gros défi technique, quoi.
Ouais, d'accord. Désolé. Et sinon, plus sérieusement,
disons que j'avais quelques influences, Godzilla, Die Hard, Independence Day. D'ailleurs, dans le pitch, ça se ressent bien. Hein.
Et puis, on s'était parlé un peu avant le début, quoi. On avait une volonté de travailler ensemble sur un projet différent. Moi, j'avais envie d'un blockbuster, un genre de Johnny Babrioli, comme ça, qui serait pas que du second degré, un truc plus profond, quoi.
Ouais, un peu déçu, d'ailleurs, de pas pouvoir se lâcher à fond. C'est rigolo de faire des destructions d'immeubles, tout ça, mais bon, c'est loin d'être... d'être aussi facile que de faire un faux blockbuster. En fait, c'est plus facile de faire une parodie que de faire un vrai blockbuster où on doit remettre ce qui a déjà été fait mille fois. C'est plus simple d'écrire des trucs débiles, genre « Amis américains, nous allons botter les fesses des martiens parce que nous, on est très forts et on a un beau drapeau. » Voilà, c'est plus dur d'avoir un vrai discours qui sonne patriotique, juste.
T'inquiète pas, hein, tu pourrais te lâcher sur d'autres projets vu qu'on a... on a encore des idées, quoi.
Oh, un scoop ? Vous comptez peut-être travailler ensemble ?
Bah oui.
En fait, ça dépend du nombre d'écoutes de Mono, quoi. je réaliserai rien d'autre si on est en fait en dessous de 1000 écoutes.
Donc comme on vient de dire, c'est la première fois que vous travaillez à deux. Des remarques peut-être, comment ça s'est passé, je sais pas, des choses à raconter.
Oui, donc en fait Mimi Ryudo a écrit le scénario et une note d'intention sous Celtics comme je lui avais demandé, hein. Donc j'ai lu, bon, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé le texte très intelligent. Ensuite, j'ai proposé quelques modifications et je me suis occupé de faire le casting, le montage, le mixage, un petit peu tout ça. Et puis pour finir, on a envoyé le mono à Chinook, qui a répondu de manière assez enthousiaste, assez convaincante, quoi. On a proposé de collaborer avec lui pour la partie visuelle du projet. Et ce qui était cool, c'est que ben, il a accepté comme ça, quoi, direct, et c'était vraiment chouette.
Oh, rien à dire. Ce qu'il oublie quand même de mentionner, Kradukman, c'est que parfois il s'arrachait les cheveux en se disant qu'il pourrait jamais mettre en scène des didascalies comme le policier raccroche, les bureaux croulent sous les dossiers, des cartes de la ville sont affichées sur les murs.
Oui, j'ai eu des grands moments de solitude. Souvent, ça me faisait rire plus qu'autre chose parce que je vois pas très bien comment mettre ce genre de truc à l'audio, quoi. Mais
C'était surtout pour créer un environnement, pour imaginer les actions que les personnages pouvaient faire dans le cadre et ainsi adapter le jeu des acteurs et les bruitages en fonction.
Oui, d'ailleurs, Mimi Ryudo, en parlant de vous collaborez régulièrement avec Chinook sur Bersuel, dans le cas de MacP3, ici encore.
Oui, et même sur mon blog. À chaque fois que j'ai une idée de visuel, je le pense en premier lieu dessiné par Chinook. Du coup, je vois mes idées un peu à travers ses yeux, c'est un peu une drogue en fait. Et plus sérieusement, en fait, il s'adapte super bien à tous les univers que je peux imaginer. Il a un sens des couleurs que j'aime bien.
Et oui, ouais, alors. Donc on a interviewé Chinook à propos de ce projet et voilà ce qu'il nous a dit.
Ouais, bah moi, déjà, ça me fait toujours plaisir de travailler avec Mimi Ryudo. Et puis là, c'était la première fois que je faisais une illustration sur quelque chose de Kradukman. Et tous les deux, ils ont quelque chose de... Ils ont toujours beaucoup de suggestions visuelles dans leur univers. Alors les deux ensemble, ça donne vraiment quelque chose de super cinématographique. Et du coup, oui, les affiches que j'ai faites, c'est... Ça a essayé un petit peu de garder cet esprit, de faire comme des affiches de films, et quand on écoute la saga, ça fait vraiment comme ça, comme si on regardait un film, avec des explosions dans tous les sens, de la destruction façon Michael Bay, et oui, c'est vraiment des personnages charismatiques, et ainsi de suite. Moi, ça m'a bien plu.
Justement, puisque Chinook parle de destruction, les explosions en continu dans la ville, ça n'a pas posé trop de problèmes de mise en scène ?
Ah non, mais moi je vous ai dit, hein, c'est un documentaire, donc ça allait, quoi.
Ouais, en fait, on a eu l'autorisation du maire pour détruire quelques buildings.
Il était un peu moins cool avec les grandes chevauchées à moto.
Ah, il a pas dû être très chaud non plus pour la scène sur le pont, non ?
Bah, avant qu'on le détruise, il était pas si opposé que ça, hein.
Je crois qu'il était surtout gêné pour les voitures qu'on avait fait placer dessus.
Ouais, je vois, donc vous voulez pas répondre.
Non, plus sérieusement, ça a été vraiment, ouais, le gros point de ce mono. Je crois que c'est la première saga MP3 catastrophe, et il fallait que ça ait vraiment de la gueule, quoi, fallait que ça claque. Donc par rapport au cinéma, on n'a pas les images pour comprendre, alors il faut faire des choses simples, quoi, claires, puissantes. Enfin, ça demande de redoubler d'ingéniosité. On a dû vraiment tirer toutes les ressources qu'on avait de l'audio et se focaliser en se disant que c'est de l'audio, quoi. Et donc je comprends pourquoi Chinook dit que c'est visuellement inimaginable. Et enfin, on s'est vraiment focalisé sur la partie auditive, quoi. C'est vraiment du sensitif, c'est vraiment une expérience inédite, quoi. De la catastrophe 100% audio. Et faut compenser à fond l'absence de visuel, quoi. Le fait qu'on n'ait pas d'image, c'est très dur. C'est vraiment très dur. C'était un boulot assez chaud et ça s'est étalé sur un peu plus d'un an de production, quoi, je pense.
Et puis tout ça à un coup, on n'a pas des bons bruitages sans investir un minimum, hein. Kradukman a dû se payer plusieurs motos pour avoir vraiment le bruitage qui lui plaît, hein.
Ouais, donc on va vous lâcher, quoi.
Bah oui, on a dû se retenir un peu pendant la saga, alors maintenant on se lâche, hein. On est des gens drôles, nous. On adore l'humour, quoi. On a même pensé un temps faire une parodie de notre blockbuster.
Il y a un petit côté lourd à parler d'environnement et tout ça, donc on n'a pas trop envie d'être associé à des gens hyper sérieux comme ça. On est quand même des rigolos. On a aussi pensé à faire une parodie de Faune, Faune Sequel en fait, où Damien devrait aller dans le château du Namachal pour chercher la carte SIM.
Ouais, ce n'est pas notre nouvelle ligne directrice en fait, hein. C'est plus une parenthèse sérieuse et divertissante dans un ensemble de créations... un peu plus légère, mais tout aussi divertissante.
Oui, donc il y a un point dont on n'a pas encore parlé, c'est le casting, justement, 4 étoiles.
Oui, on s'est dit un temps qu'on allait donner leur chance à des petits nouveaux.
Et puis en fait, non, on a... Moi, je travaille pas avec des nouveaux, on a pris des gens qu'on connaissait, avec qui on avait l'habitude de travailler, enfin, surtout avec qui j'ai l'habitude de travailler, je sais qu'ils vont fournir une qualité son à partir de laquelle je sais vraiment bosser, je sais vraiment faire quelque chose. Parce que j'ai déjà eu des projets vraiment horribles où les rushs étaient juste intraitables et vous perdez dans la crédibilité, quoi. Et Enfin, c'était déjà assez chaud de faire un mono comme ça. On n'allait pas en plus rajouter des gens qui jouent n'importe comment ou qui aient des fameuses différences de micro comme on peut entendre chez certains créateurs, quoi. Et on serait tombé dans le nanar directement et c'est ce qu'on voulait éviter. Surtout vu le message qu'il y a à faire passer et tout, c'était un risque à pas prendre.
C'est toujours le risque des élans patriotiques. Écrire un film américain pour américain quand on est français ou franco-belge, c'est un peu risquer de sombrer dans le côté ridicule de la farce.
Donc, comme tout à l'heure avec Schnook, on a interviewé quelques acteurs secondaires, donc Zilan, Orin, Dostaki.
Faut se dire quand même que c'est un truc qui est très très dur à jouer, mais heureusement la direction était très claire. Par contre, j'ai dû refaire certains dialogues parce que sinon ça tombait nanar. C'est quand même un vachement gros scénar, c'est beaucoup de boulot quoi. Donc, y a eu plusieurs sessions d'enregistrement.
Alors, on a fait. On était sur Skype, on était dirigé sur Skype. Et heureusement que Kra, quand même, elle fait quelques ambiances. Parce que franchement, vu le test, juste en audio, bah, juste le texte là, c'était une horreur! Ah oh, si, on a failli péter un câble. 5 semaines d'enregistrement, quand même. Faut pas déconner, quoi. D'habitude, on fait ça en quoi? En une soirée. Mais là, vu l'ampleur, c'est, ça a étalé ça sur quoi? Des sessions de 2 heures le samedi et le jeudi, je sais plus exactement. Sur 5 semaines, quand même.
Ouais, on a dû faire le truc en plusieurs fois, étalé sur plusieurs mois, tellement fallait... Caser les sessions alors qu'en saga MP3 on a notre vie derrière donc
Ah si on est, des fois on est avec Crack, on n'était pas du tout d'accord sur la façon de mettre en scène certaines situations. C'était assez compliqué quoi, c'est fou.
Bah c'est sûr que sur par exemple la scène du pont c'était une horreur niveau technique donc On a quand même dû vachement s'organiser pour que ça colle bien au texte et après niveau mix réalisation. Finalement ça s'est plutôt bien passé sur le final.
À la scène du pont, oh, c'était franchement une horreur quoi. Mais ça va, heureusement, l'équipe était quand même bonne, au taquet et tout. Mais au final ça va, on a un bon rendu, ça sonne plutôt bien. Je suis assez content. Puis bon, je suis passé un peu derrière au mixage pour aider, sinon...
Faut dire que le mix d'Orin était assez épique au final, donc ça aide beaucoup. J'ai participé aussi à la création de musique de cette scène, mais bon, le truc c'est que Kradouk a quand même une vision spéciale du projet, fallait quand même s'adapter pas mal, quoi.
Ouais, c'était une horreur à mixer ces instrus, quoi. Parce que, franchement, entre moi qui utilise Cubase, Zilan qui utilise Reaper et Crack qui utilise Logic, je vous raconte pas le merdier.
Bah, le truc, c'est que comme on fait de la saga MP3, y a pas forcément besoin d'un truc hyper professionnel. Mais bon, là, pareil, comme on est dans une super production. Ça demande quand même une adaptation particulière, donc du coup je me suis quand même payé des instruments. Enfin voilà, je me suis quand même payé le Quantum League de chez East West et quelques autres de Tonhammer. Comme ça je pourrais m'en servir aussi pour Milena, pour Brix ou d'autres sagas que je ferai plus tard.
Non, puis bon, travailler avec du libre, c'est bien gentil, mais bon, on est quand même super limité, quoi, surtout au niveau du réalisme. Là, un petit son d'un Reason et tout ça, c'est génial, c'est unique, quoi.
Bah, en Sega MP3, il manque toujours l'ambiance des plateaux de cinéma. Donc là, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression d'y être, quoi. Donc on joue pas vraiment seul chez soi, il y a vraiment un travail d'amont avec des bruitages déjà préparés, une vraie direction d'acteur en live, quelques rencontres avec d'autres acteurs comme Zilan ou Orin. Et je me souviens d'une scène assez difficile avec l'équipe de policiers, et j'arrivais pas du tout à obtenir un jeu qui sonnait juste en fait. Et bien il y a Kradouk qui m'a proposé de me faire écouter des rushs, et ensuite carrément d'enregistrer la scène avec les autres acteurs. C'était vraiment une expérience unique. Et ça va, j'ai l'habitude, en plus avec Faune, tout ça, de jouer des héros un petit peu sombres, un petit peu torturés, comme Damien Solan ou Natis Vadelias, enfin ce genre de rôle. Et là, c'est vrai que jouer un vrai méchant, un vrai bad guy qui était en plus vraiment complexe dans sa psychologie, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis voilà, en plus, j'ai vraiment... Kradouk, par exemple, me demandait vraiment... d'aller vraiment à fond au niveau du jeu et me demander par exemple parce que comme c'est un vrai blockbuster, on fait pas de pitch, on fait pas de pitch vocal, donc il fallait vraiment que j'ai une voix beaucoup plus grave, et donc j'ai vraiment, vraiment poussé vraiment dans, au niveau du diaphragme, tout ça, pour vraiment avoir une voix extrêmement grave, pour que ça passe vraiment bien, quoi. Et là, c'était vraiment très très intéressant, et j'ai pu découvrir vraiment de nouvelles facettes dans mon jeu d'acteur. J'ai participé à quelques projets comme ça, quoi. Par exemple, avec mon collaborateur Yamaki, je fais juste l'acteur parfois dans certains rôles. Mais c'est vrai que là, me proposer le script comme ça, j'ai vu le script, j'étais tout de suite vraiment intéressé. Et puis c'est vrai que c'est pas mal de se dire, voilà, j'ai juste qu'à jouer, à suivre le rôle, quoi. Parce que d'habitude, on se dit, allez, je fais le rôle. Ah, bah après, faut que je dérush, faut que je monte, faut que je mixe. Donc ça fait tout un système qui est très lourd. Et donc c'est vrai que juste faire l'acteur et se dire c'est bon, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est vrai que c'est plutôt libérateur et ça fait du bien, ça repose. Non, c'est vrai que cette scène du pont est quand même extrêmement impressionnante, quoi, avec les embouteillages, c'est vraiment de l'action pure, quoi. Donc j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un Die Hard, genre le Die Hard 3, qui pour moi c'est l'un des meilleurs. Et c'est vrai que sur le coup, c'était très, très impressionnant. Et puis même au niveau du jeu d'acteur, c'était quand même très, très compliqué, quoi, parce que voilà, il y a un embouteillage, c'est de l'action non-stop, et voilà, fallait vraiment pousser sur la voix, vraiment gueuler à fond, et c'était génial, quoi. C'est la première fois, on va dire, que je ressens ça en tant qu'acteur, parce que comme j'ai dit avant, je joue un peu que les héros, et donc jouer un pur bad guy, c'est vrai que c'était vraiment cool, quoi.
Vous avez quelque chose à redire, peut-être ?
Non, moi j'ai rien de plus à dire, quoi. Je veux dire, je suis content que ça leur ait plu de travailler, même si c'était pas toujours facile, quoi.
Oui, donc vous avez également travaillé avec Blast, donc comment ça s'est passé ? Ça a pas été trop difficile à diriger, je sais pas ?
Non, pas du tout, ça se passe assez bien, disons. Bon, la difficulté avec Blast, c'est qu'on peut pas vraiment le diriger parce qu'il a un planning très chargé, donc faut vraiment que tout soit dans le texte, mais c'était bien écrit. Mais non, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, quoi. Il m'a fourni des prises déjà dérochées. Et généralement, ça arrive pas, quoi. Il avait déjà dérochées, très têtu et tout. C'était vraiment bien, quoi. Donc j'ai juste dû vraiment insérer, pratiquement, peut-être juste retoucher quelques volumes. Mais c'était vraiment peinard, quoi. C'était chouette.
Allez, soyons fous. On va peut-être poser une question un peu plus osée. Donc vous avez des secrets de tournage, peut-être non?
Ouais, c'est-à-dire qu'en saga MP3, les secrets de tournage, ça se résume à une fois mon PC a planté, j'ai dû reprendre 70% de mon montage, quoi. Y a rien de plus, quoi. C'est pas très folichon, y a pas des grosses histoires, quoi. Même si, comme a dit Tostaki, j'ai parfois orchestré des séances de jeu en live pour répéter le texte, mais ça reste anecdotique. L'essentiel, c'est fait chacun pour soi, quand même, et c'est vraiment un travail côté réalisateur en amont, c'est de la post-production pure, quoi. Une fois que vous avez les rushs, vous bossez dessus tout seul, vous êtes tout seul sur le projet, éventuellement quelques discussions avec le scénariste et c'est tout, quoi.
Oui, enfin, nous, comme c'est un documentaire, on peut vous raconter des tonnes de trucs, hein.
Oui, j'en doute pas, de toute façon, voilà. Bon, merci pour cette interview. Donc, peut-être une dernière question. Il y aura une suite de prévues, envisagées, je sais pas.
Non, la fin est fermée, clairement, donc il y aura pas de suite. Mais comme on a dit tout à l'heure, on aura sans doute d'autres projets ensemble, quoi.
Et pour celui-ci, il y aura quelques bonus, de l'audio, du visuel via Schnook et de la lecture. Je mettrai en ligne le scénario et ma note d'intention. Vous n'allez pas vous débarrasser si vite que ça de nous.
Oh bah on n'espère pas, hein, donc bonne chance à tous les deux.
Merci et à bientôt.
Merci. À bientôt. Puis aussi, je voulais dire merci à notre producteur qui a investi énormément d'argent dans ce projet. C'est un producteur qui est serbe, enfin ça avait plusieurs avantages, hein. Il avait beaucoup d'argent, il comprenait pas un mot de ce qu'on lui racontait, donc bien sûr ça a beaucoup aidé au financement. On a eu un peu tout ce qu'on voulait, on a pu détruire des milliers de cartons-pâtes, on a cassé plusieurs dizaines de maquettes, des épées en plastique, des motos en mousse, enfin voilà, on a eu vraiment du très très bon matériel. Du matériel serbe, bien sûr.